Chapitre 7. Obinze voulait aller à l'université d'Ibadan à cause d'un poème. Il lui lut le poème « Ibadan » de J.P. Clark et il s'attarda sur les mots « un jaillissement continu de rouille et d'or ».
« Tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « À cause de ce poème ?»«
Il est si beau !»
Ifemelu secoua la tête avec un air d'incrédulité moqueuse. Mais elle aussi voulait aller à Ibadan parce que tante Uju s'y était installée. Ils remplirent ensemble leur formulaire d'inscription. Assis à la table de la salle à manger pendant que la mère d'Obinze tournait autour d'eux disant « Vous êtes sûr d'utiliser le bon crayon ? Vérifiez tout. Il paraît qu'il y a des erreurs invraisemblables, incroyables. » Obinze dit « Maman, on aura bien plus de chances de remplir ces papiers sans faire d'erreur si tu t'arrêtes de parler. En tout cas, vous devriez prendre Ntsuka comme deuxième choix, » dit sa mère. Mais Obinze ne voulait pas aller à Ntsuka. Il voulait échapper à l'existence qu'il avait toujours menée. Et pour Ifemelu, l'université de Ntsuka était lointaine et poussiéreuse. Ils décidèrent donc de prendre l'université de Lagos comme deuxième choix. Le lendemain, la mère d'Obinze fit un malaise à la bibliothèque. Un étudiant la trouva évanouie par terre, une petite bosse à la tête, et Obinze dit à Ifemelu « Dieu merci, nous n'avons pas envoyé nos formulaires d'inscription. »«
Que veux-tu dire ?»«
Maman rentre à Ntsuka à la fin du semestre. Je dois être près d'elle. Le médecin dit que ce truc risque de se reproduire. » Il s'interrompit. « Nous pourrons nous voir pendant les longs week-ends. J'irai à Ibadan et tu viendras à Ntsuka. »
« Tu plaisantes ?» dit-elle. « Biko, je change moi aussi pour Ntsuka. »
Le changement fit plaisir à son père. « C'était bien, dit-il, qu'elle aille à l'université dans le pays Igbo, puisqu'elle avait passé toute sa vie dans l'Ouest. » Sa mère était catastrophée. Ibadan n'était qu'à 1 heure de Lagos, et Ntsuka à 1 journée de voyage en bus.
« Pas 1 journée, maman, seulement 7 heures !»
Et quelle est la différence entre 7 heures et 1 journée ?
Demanda sa mère. Ifemelu attendait avec impatience de quitter la maison, de pouvoir gérer son temps en toute liberté, et elle était rassurée à la pensée que Rani Nudo et Tochi allaient aussi à Ntsuka. Ainsi qu'Emenike, qui demanda à Obinze s'il pouvait partager une chambre dans la partie réservée aux garçons de la maison de sa mère. Obinze accepta. Ifemelu aurait préféré qu'il refuse.
« Il y a un truc pas net avec Emenike, » dit-elle.
« Mais peu importe, du moment qu'il s'en va quand nous allons au ciel. »
Plus tard, Obinze lui demanderait, mi-figue, mi-raisin, si elle pensait que l'évanouissement de sa mère avait été prémédité à un complot pour le garder près d'elle. Pendant longtemps, il parla avec nostalgie d'Ibadan, jusqu'au jour où il se rendit sur le campus pour un tournoi de ping-pong et revint en lui disant, d'un air penaud,
Ibadan m'a rappelé Ntsuka.
Se rendre à Ntsuka lui permit enfin de voir la maison d'Obinze, un bungalow dans une résidence fleurie. Ifemelu l'imaginait dévalant la rue en pente sur sa bicyclette, rentrant de l'école avec son sac et sa bouteille d'eau. Pourtant, elle était désorientée à Ntsuka. Tout lui paraissait trop lent, la poussière était trop rouge, les gens trop satisfaits de leurs petites existences. Mais elle parviendrait à l'aimer, d'un amour hésitant au début. De la fenêtre de sa résidence étudiante, où 4 lits s'entassaient dans un espace prévu pour 2, elle voyait l'entrée de Bellow Hall. De grands gmelinas se balançaient au vent. Et en dessous se trouvait une foule de vendeurs ambulants avec leurs plateaux de bananes et de cacahuètes, des okadas, ces mototaxis rangés les unes contre les autres dont les conducteurs bavardaient et riaient. Chacun prêt à bondir sur le client. Elle tapissa son coin de papier bleu vif et, comme elle avait entendu parler de querelles entre résidentes, une étudiante de dernière année, disait-on, avait versé du pétrole dans le tiroir d'une première année qui s'était d'après elle montrée impertinente, elle considéra qu'elle avait de la chance en ce qui concernait ses camarades. Elles étaient faciles à vivre et, bientôt, elle commença à partager et à emprunter ce qui venait rapidement à manquer. Dentifrice, lait en poudre, nouilles déshydratées ou pommade pour les cheveux.
Le matin, elle se réveillait le plus souvent en entendant un murmure de voix dans le couloir, les étudiantes catholiques qui récitaient leur chapelet. Et elle se dépêchait d'aller à la salle de bain pour remplir son seau d'eau avant que le robinet ne coule plus, de s'accroupir au-dessus de la cuvette des toilettes avant qu'elle ne soit abominablement pleine. Parfois, quand elle arrivait trop tard et que les toilettes débordaient déjà, elle allait jusqu'à la maison d'Obinze même en son absence. Et quand Augustina, la femme de ménage, lui ouvrait la porte, elle lui disait « Tina, Tina, comment va? Je suis venue pour utiliser les toilettes. » Elle déjeunait souvent chez Obinze, ou bien ils allaient en ville, chez Onyeka Uzolu, et s'asseyaient sur un des bancs de bois dans la pénombre du restaurant, mangeant dans des assiettes émaillées les viandes les plus tendres et les ragoûts les plus savoureux. Elle passait parfois la soirée dans le quartier des garçons chez Obinze, allongée sur son matelas, à écouter de la musique. Ou elle dansait en sous-vêtements, roulant des hanches, et il se moquait d'elle et de son petit cul. « J'allais te dire de le remuer, mais il n'y a rien à remuer. » L'université était grande et vaste. Il y avait toute la place pour passer inaperçue, tellement d'espace. Elle s'intégra facilement tant étaient nombreuses les possibilités de s'intégrer. Obinze la taquinait au sujet de la popularité qu'elle avait déjà acquise, de l'activité qui régnait dans sa chambre où se bousculaient les étudiants de première année, tandis que ceux de dernière année venaient tenter leur chance, bien qu'une grande photo d'Obinze soit accrochée au-dessus de son oreiller. Les garçons l'amusaient. Ils arrivaient et s'asseyaient sur son lit, proposant d'un air solennel de lui faire visiter le campus. Et elle les imaginait en train de débiter les mêmes paroles sur le même ton à la fille de première année de la chambre voisine. L'un d'eux, pourtant, était différent. Il s'appelait Odéine. Il vint dans sa chambre, non pas avec le flot des premières années, mais pour parler à ses camarades de chambre de l'association des étudiants. Par la suite, il revint lui dire bonjour, apportant parfois un paquet de souya chaud et épicé, enveloppé dans du papier journal taché de graisse. Son activisme surprenait Ifemelu. Il semblait un peu trop poli, un peu trop sympa pour appartenir à la direction de l'association des étudiants. Mais en même temps, il l'impressionnait. Il avait des lèvres charnues et bien dessinées, la supérieure de la même taille que l'inférieure, des lèvres sensibles et sensuelles. Et pendant qu'il parlait, « Si les étudiants ne sont pas unis, personne ne nous écoutera. » Ifemelu s'imaginait en train de l'embrasser, sachant qu'elle ne le ferait jamais. C'est à cause de lui qu'elle prit part à la manifestation et convainquit Obinze d'y participer lui aussi. Ils psalmodièrent « Pas de lumière, pas d'eau !» et « Le WC est un veau !» et se trouvèrent emportés par la foule grondante qui finit par faire halte devant la maison du vice-chancelier. Des bouteilles furent brisées. Une voiture incendiée, puis le vice-chancelier sortit, minuscule, encadré de ses gardes du corps, et s'exprima dans un langage en demi-teinte. Un peu plus tard, la mère d'Obinze dit « Je comprends les griefs des étudiants, mais nous ne sommes pas l'ennemi. Les militaires sont l'ennemi. Ils n'ont pas payé nos salaires depuis des mois. Comment enseigner si nous ne pouvons pas manger ?» Plus tard encore, la rumeur se répandit sur le campus que les maîtres de conférences faisaient grève, et les étudiants se rassemblèrent dans le hall du foyer qui y bourdonnait de vraies et fausses nouvelles. C'était vrai, ce que confirma le représentant de la résidence. Tous soupirèrent à la perspective de cette interruption inopportune et regagnèrent leur chambre pour faire leurs valises. Le campus serait fermé dès le lendemain. Ifemelu entendit près d'elle une fille dire « « Je n'ai pas les 10 kobos nécessaires pour rentrer chez moi. » La grève dura trop longtemps. Les semaines s'éternisaient. Ifemelu était nerveuse, agitée. Elle écoutait tous les jours les nouvelles, espérant apprendre que la grève avait pris fin. Obinze l'appelait chez Rani Nudo, et elle y arrivait quelques minutes avant l'heure où il était censé téléphoner, et elle s'asseyait près du téléphone gris à cadran, attendant la sonnerie. Elle se sentait coupée de lui, comme si chacun vivait et respirait dans des sphères différentes, lui languissant et déprimé à Nsuka, elle languissante et déprimée à Lagos,
tout restant figé dans une sorte de léthargie. L'existence était devenue un film flou passant au ralenti. Sa mère lui demanda si elle voulait s'inscrire au cours de couture de la paroisse pour s'occuper. Et son père dit que c'était ça, ces grèves interminables de l'université qui transformaient les jeunes en bandits armés. La grève était nationale et tous ses amis étaient rentrés chez eux. Même Caillaudet était en vacances à la maison, de retour de son université américaine. Elle alla voir des amis et assista à des fêtes, regrettant qu'Obinze n'habite pas à Lagos. Parfois, Odéine, qui avait une voiture, venait la chercher et l'emmenait là où elle voulait. « Ton petit ami a de la chance », lui disait-il, et elle riait, flirtait avec lui. Elle s'imaginait encore en train de l'embrasser, lui avec ses yeux de biche et ses lèvres charnues. Un week-end, Obinze vint la voir et habita chez Caillaudet. « Que se passe-t-il avec cette Odéine ?» lui demanda-t-il.
« Quoi ?»
Caillaudet raconte qu'il t'a ramené chez toi après la fête d'Ozaon. Tu ne me l'as pas dit ?
J'ai oublié.
Tu as oublié. Elle soupira.
Ciel, ce n'est rien. Je suis seulement curieuse à son sujet. Il ne se passera jamais rien. Mais je suis curieuse. Tu t'intéresses aussi à d'autres filles, non ?
Il la dévisageait, le regard inquiet. Non, dit-il froidement. Elle ne m'intéresse pas. Sois franc. Je suis franc. Le problème est que tu crois que tout le monde est comme toi. Tu crois être la norme, mais tu ne l'es pas.
Que veux-tu dire ?
Rien, laisse tomber. Il ne voulut pas en dire davantage, mais l'atmosphère entre eux se détériora et resta tendue pendant plusieurs jours, même après qu'il fut rentré chez lui, si bien que lorsque la grève prit fin, les maîtres de conférence ont levé l'ordre de grève. Dieu soit loué ! S'écria un matin Chetachi dans leur appartement. Et Kifemelu retourna à Nsuka. Ils restèrent hésitants l'un envers l'autre durant les premiers jours, mesurant leurs propos, abrégeant leurs étreintes. Kifemelu s'aperçut avec surprise que Nsuka lui avait manqué. Les habitudes au rythme nonchalant, les amis qui se réunissaient le soir dans sa chambre jusqu'après minuit, les petits potins répétés à satiété, les escaliers gravis et descendus lentement, comme après un réveil difficile, et chaque matin blanchi par l'harmattan. À Lagos, l'harmattan était un simple voile de brume, mais à Nsuka, c'était une présence déchaînée, changeante. Les matins étaient vifs, les après-midi plombés par la chaleur et les nuits imprévisibles. Des tourbillons de poussière se formaient dans le lointain, très beaux à voir tant qu'ils restaient au loin, et tournoyaient jusqu'à ce qu'ils aient tout recouvert d'une pellicule brune. Même les cils. Partout, l'humidité était goulûment absorbée, le bois plastifié des tables se décollait et se recourbait, les pages des cahiers se fendillaient, les vêtements séchaient quelques minutes après avoir été suspendus, les lèvres gerçaient et saignaient, et les baumes pour les lèvres étaient toujours gardés à proximité, dans les poches et les sacs à main. On s'enduisait la peau de vaseline tandis que les parties oubliées, entre les doigts ou au coude, devenaient d'un gris mat. Les branches des arbres étaient sans vie et, dénudées de leurs feuilles, se dressaient dans une sorte de fière désolation. Les ventes de charité paroissiale emplissaient l'air des fumées des cuisines collectives. Certaines nuits, la chaleur était lourde, épaisse comme une serviette. Parfois, un vent froid et coupant se levait, et Ifemelu abandonnait sa chambre de la résidence. Blottie près d'Obinze sur son matelas, elle écoutait les pins siffleurs hurler au dehors, dans un monde devenu soudain fragile et précaire. Les muscles d'Obinze étaient douloureux. Il était à plat ventre et à cheval sur lui, Ifemelu lui massait le dos, le cou et les cuisses avec ses doigts, ses poings et ses coudes. Il était endolori, étendu. Elle se mit debout sur lui, posa délicatement un pied sur une de ses cuisses, puis sur l'autre. « Est-ce que ça te fait du bien ?»«
Oui. »
Il gémit de douleur et de plaisir mêlés. Elle appuya lentement, sentant sa peau chaude sous la plante de ses pieds, ses muscles noués qui se détendaient. Elle se retint d'une main au mur et pressa ses talons plus profondément, centimètre par centimètre, tandis qu'il grognait «
Ah, oh, Ifem, juste là,
Oh!
Vous devriez vous étirer après avoir joué, cher monsieur, dit-elle. Puis elle s'allongea sur son dos, le chatouillant sous les bras et l'embrassant dans le cou.
Je peux te suggérer une meilleure sorte de massage, dit-il.
Quand il la déshabilla, il ne s'arrêta pas, comme d'habitude, à ses sous-vêtements. Il les fit glisser et elle souleva ses jambes pour l'aider.
Ciel !
Dit-elle, pas tout à fait certaine. Elle ne voulait pas qu'il s'arrête, mais elle avait imaginé la chose autrement, pensé qu'il en ferait une cérémonie soigneusement planifiée.
Je me retirerai, dit-il. Tu sais que ça ne marche pas toujours.
Si ça ne marche pas, nous accueillerons Junior avec joie.
Arrête.
Il leva les yeux.
Mais Ifem, de toute façon, nous allons nous marier.
Tu crois ? Je pourrais rencontrer un bel homme très riche et te quitter. Impossible. Nous irons en Amérique quand nous aurons nos diplômes et nous y élèverons nos beaux enfants.
Tu dis n'importe quoi en ce moment parce que tu as le cerveau entre les jambes.
Mais mon cerveau est toujours là.
Il riait. Puis leur rire cessa, céda la place à une étrange et nouvelle gravité, un enlacement hésitant.
Pour Ifemelu, une pâle copie. Une imitation ratée de ce qu'elle avait anticipé. Après qu'il se fut retiré, brusquement, haletant, se retenant, un sentiment de gêne l'assaillit. Elle avait été tendue du début à la fin, incapable de se laisser aller. Elle avait imaginé que la mère d'Obinze les observait. Cette image s'était imposée à son esprit et elle était devenue, encore plus bizarrement, une double image, sa mère et Onyeka Unwenu les contemplant ensemble d'un regard impassible. Elle savait qu'elle ne pourrait pas dire à la mère d'Obinze ce qui était arrivé, bien qu'elle s'y soit engagée, qu'elle se soit crue capable de tenir sa promesse.
Mais comment le pourrait-elle désormais ? Que lui dire ? Quels mots utiliser ? La mère d'Obinze s'attendrait-elle à des détails ?
Obinze et elle auraient dû être plus prévoyants. Ainsi, elle aurait su quoi raconter. Cette soudaineté l'avait laissée un peu déconcertée, voire un peu déçue. Elle avait l'impression que ça ne valait pas tellement la peine, au fond.
Quand, une semaine ou deux plus tard, elle se réveilla souffrante, une douleur aiguë lui transperçant le côté, prise d'une nausée écœurante, elle fut saisie de panique. Puis elle vomit et la panique s'accentua.
« C'est arrivé !» dit-elle à Obinze. « Je suis enceinte !»
Ils s'étaient retrouvés, comme d'habitude, devant le réfectoire de l'ECPO après la conférence du matin. Les étudiants allaient et venaient. Des garçons fumaient et riaient près d'eux, et pendant un instant, elle crut qu'elle était l'objet de leur rire. Obinze plissa le front. Il parut ne pas comprendre ce qu'elle disait.
« Mais Ifem, c'est impossible. C'est trop tôt et en plus, je me suis retirée. »«
Je t'avais prévenu que ça ne marchait pas !» dit-elle.
Il semblait soudain très jeune, un petit garçon désorienté qui la regardait d'un air impuissant. Elle sentit sa panique grandir. Sans réfléchir, elle héla un « Okada » de passage, sauta à l'arrière et dit au motocycliste de la conduire en ville.
« Ifem, que fais-tu ? » demanda Obinze. « Où vas-tu ? » « Téléphonez à tante Uju, » dit-elle.
Obinze prit l'Okada suivant et partit à toute allure derrière elle, franchit les grilles de l'université pour atteindre les bureaux du Nitel, où Ifemelu tendit à l'homme derrière le comptoir écaillé un bout de papier portant le numéro américain de tante Uju. Au téléphone, elle parla en langage codé, qu'elle inventa au fur et à mesure, à cause des gens autour d'elle, dont les uns attendaient de passer leurs appels, les autres traînaient simplement, tous prêtant l'oreille avec un intérêt non dissimulé aux conversations d'autrui.
« Tante, je crois que ce qui t'est arrivé avant Dike m'est arrivé aussi, » dit Ifemelu. « Nous avons mangé cette nourriture il y a une semaine. »«
Seulement une semaine ? Combien de fois ?»«
Une fois ?»«
Ifem, calme-toi. Je ne pense pas que tu sois enceinte, mais tu dois faire un test. Ne va pas au centre médical du campus. » Va en ville où personne ne te connaîtra. Mais d'abord, calme-toi. Tout ira bien. Inugo ? Plus tard, Ifemelu se retrouva assise sur une chaise branlante dans la salle d'attente du laboratoire, muette, impassible. ignorant Obinze. Elle était en colère contre lui. C'était injuste, elle le savait, mais elle était en colère contre lui. Quand elle était entrée dans les toilettes sales avec le petit récipient que l'infirmière du laboratoire lui avait remis, il avait demandé, prêt à se lever, « Est-ce que je dois venir ?» Et elle avait répliqué, « Venir pourquoi ?» Et elle aurait aimé gifler l'infirmière. Une grande perche au teint jaune qui avait ricané et secoué la tête quand Ifemelu avait dit « Test de grossesse ». Comme si elle trouvait incroyable d'avoir affaire à un cas de plus de dévergondage. À présent, elle les observait avec un sourire narquois, fredonnant d'un air désinvolte. « J'ai le résultat !» dit-elle au bout d'un moment, tenant le papier décacheté, l'air déçu parce qu'il était négatif. Ifemelu fut trop stupéfaite tout d'abord pour se sentir soulagée, puis elle eut encore besoin d'uriner. « Les gens devraient avoir du respect pour eux-mêmes et vivre en bon chrétien pour éviter les ennuis, » dit l'infirmière quand ils partirent. Ce soir-là, Ifemelu vomit à nouveau. Elle lisait, allongée dans la chambre d'Obinze, toujours aussi distante envers lui, quand un flot de salive mousseuse emplit sa bouche. Elle bondit en bas du lit et courut aux toilettes. « C'est sans doute quelque chose que j'ai mangé, » dit-elle. « La bouillie d'igname que j'ai achetée chez Mama Owere. » Obinze alla dans la maison principale et revint en disant que sa mère allait l'emmener chez le médecin. Il était tard, dans la soirée. Sa mère n'aimait pas le jeune docteur qui était de garde le soir au centre médical, et elle la conduisit chez le docteur Achufusi. En passant devant l'école primaire avec ses haies bien taillées de pincifleurs, Ifemelu se figura qu'elle était réellement enceinte et que la fille avait utilisé des produits périmés pour le test dans ce laboratoire minable. Elle dit soudain, « Nous avons fait l'amour, tante. Une fois !» Elle sentit Obinze se raidir. Sa mère la regarda dans le rétroviseur. « Voyons d'abord le docteur, » dit-elle. Le docteur Achufusi, un homme plaisant à l'attitude paternelle, appuya sur le côté d'Ifemelu et annonça « C'est votre appendice qui est très enflammé. Il faudrait l'ôter au plus vite. » Il se tourna vers la mère d'Obinze. « Je peux lui donner un rendez-vous demain après-midi. »« Merci infiniment, docteur, » dit la mère d'Obinze. Dans la voiture, Ifemelu dit « Je n'ai jamais subi d'opération, tante. »« Ce n'est rien, » dit vivement la mère d'Obinze. « Nos médecins sont excellents. Préviens tes parents et dis-leur de ne pas s'inquiéter. » Nous nous occuperons de toi. Lorsque tu seras sorti de l'hôpital, tu pourras rester à la maison jusqu'à ce que tu aies repris des forces. » Ifemelu appela la collègue de sa mère, tante Bunmi, et lui laissa un message ainsi que le numéro de téléphone de la maison d'Obinze pour qu'elle les communique à sa mère. Le soir même, sa mère appela. Elle paraissait essoufflée. « Dieu a les choses en main, ma précieuse. Je remercie Dieu pour ce que fait ton ami. » Dieu la bénira ainsi que sa mère. C'est le. Un garçon.
Oh !
Sa mère se tut.
Remercie-les, je te prie. Dieu les bénisse. Nous prendrons le premier bus demain pour Ntsuka.
Ifemelu se souvint qu'une infirmière lui avait rasé le pubis, du grattement désagréable du rasoir, de l'odeur de l'antiseptique. Puis il y eut un blanc, son esprit oblitéré, et quand elle émergea, sonnée, vacillant encore à la lisière du souvenir, elle entendit ses parents qui parlaient à la mère d'Obinze. Sa mère lui tenait la main. Plus tard, la mère d'Obinze invita ses parents à habiter chez elle. Il était inutile de gaspiller de l'argent en descendant à l'hôtel. « Ifemelu est comme une fille pour moi, » dit-elle. Avant qu'il retourne à Lagos, son père dit, avec cette timide admiration qu'il éprouvait face à ceux qui avaient fait de longues études, « Elle a une licence de l'Université de Londres. » Et sa mère ajouta, « Un garçon très respectueux, cet Obinze. Il a été bien éduqué par ses parents. Et leur ville d'origine n'est pas loin de chez nous. » La mère d'Obinze attendit quelques jours, peut-être pour qu'Ifemelu reprenne des forces, avant de les faire venir, de leur demander de s'asseoir et d'éteindre la télévision. Obinze et Ifemelu. Tout le monde fait des erreurs, mais on peut en éviter certaines. »
Obinze garda le silence. Ifemelu dit
« Oui, tante. »
« Vous devez toujours utiliser un préservatif. Si vous voulez vous montrer irresponsable, attendez de ne plus être sous ma garde. »
Son ton s'était durci, était devenu plus sévère.
« Si vous choisissez de faire l'amour, alors vous devez choisir de vous protéger. Obinze, tu devrais utiliser ton argent de poche pour acheter des préservatifs. Toi aussi, Ifemelu. Peu m'importe que tu sois gênée. » Tu dois aller les acheter dans une pharmacie. Tu ne dois jamais laisser au garçon la responsabilité de ta propre protection. S'il ne veut pas les utiliser, c'est qu'il ne se soucie pas assez de toi et que tu ne devrais pas être là. Obinze, ce n'est peut-être pas toi qui porteras l'enfant, mais si cela arrive, toute ta vie en sera changée et tu ne pourras rien y faire. Et s'il vous plaît, vous deux, pas d'infidélité. Les maladies sont partout. Le sida est une réalité.
Ils gardèrent le silence.
« M'avez-vous comprise ?»
demanda la mère d'Obinze.
« Oui, tante, »
dit Ifemelu.
« Obinze !»
demanda sa mère. « J'ai compris, maman, » dit Obinze, avant d'ajouter d'un ton sec.
« Je ne suis pas un petit garçon. »
Puis il se leva et sortit rapidement de la pièce.